La chronique Je lire, proposée par Henri Landré.
Sur Jet FM, cette chronique Je lire n'est pas une chronique habituelle puisque je suis en déplacement cette semaine à Rennes pour le festival Spéléographie, la 4e Biennale des Écritures, qui se déroule jusqu'au 26 juin et nous sommes au cœur du Labo Collectif. 12 autrices et auteurs sont rassemblés pour créer, ensemble ou individuellement, et faire une restitution publique ce dimanche. J'y conçois quelques documentations sonores qu'on appelle aussi podcasts. Et je vous propose, pour vous donner peut-être envie de faire le voyage jusqu'à Rennes et de venir voir notamment quelques-unes des belles expositions qui sont proposées dans le cadre de cette biennale, et bien d'écouter l'épisode 5 de ces podcasts tous rassemblés sur un Bandcamp, épisode 5 consacré à 3 expositions qui sont disséminées à Rennes, celle de Sammy Stein à L'Endroit, celle d'Alex Baladi à l'Orangerie du Tabor et celle de Mathias Picard dans la minuscule galerie.
Mathieu,
ouais,
Dimago,
ouais, je l'ai celui-là. Ouais. Okay. Ouais, ouais. Il est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, le mec de la cathédrale.
Spéléophonie.
Et ça, tu le connaissais avant de connaître Mathieu, ce livre ?
Ouais.
C'est marrant.
Un carnet sonore réalisé au sein du labo de spéléographie, 4e biennale des écritures, à Rennes.
On va faire dans cette collection-là sur.
Proposé par Henri Landré.
Utopix, dont je te parlais hier.
Ok.
Un petit format.
C'est pas avec une pochette violette ?
Si. Ouais.
Chapitre 5.
Ah ouais.
Jules Vernissage.
C'est du tricotage industriel.
Sammy Stein.
Il s'agit de traduire des images en tricot, ce qui ressemble beaucoup à la fin, en utilisant ces images-là noir et blanc, à du pixel en fait. Ça rappelle, moi ça m'évoque à la fois le pixel, les vieux gifs, et puis à la fois les photocopies aussi. Quand on fait des photocopies, ça devient crade, ça trame. Et puis voilà, donc c'est un peu l'idée de transformer les images, de transformer ces photos qui sont des photos que j'ai prises il y a moins d'un an dans les endroits où je me baladais, et là de les amener juste par un. En leur donnant un titre, en leur mettre, qui est affiché comme un panneau en fait, plaqué sur la photo, de les amener dans un imaginaire en fait, qui est bien loin de ce que sont ces lieux normalement quoi. Et là de les amener vraiment dans un récit mystérieux quoi, on va dire. Et puis sur le toit, là on le voit pas, mais sur le toit il y a une bâche de 3 mètres où il y a marqué centre de la terre, et puis il y a une sur le toit, oui. Et puis il y a une flèche qui indique le bas quoi. Donc en gros on peut imaginer que par ici il y aura un accès au centre de la terre, c'est certain.
L'endroit, c'est l'accès au centre de la terre.
L'endroit ou ce centre commercial, parce que ce qui est marrant c'est qu'on est sur une dalle d'un centre commercial, donc c'est vraiment le pire endroit pour imaginer des choses quoi, des choses un peu fantastiques. Et voilà, en fait cette expo elle va aussi avec une édition à fanzine que j'ai réalisé voilà, exprès pour l'occasion. C'est vraiment une pièce de l'expo qui est une relecture de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, justement, qui après, au bout de la moitié du récit que j'ai résumé et un peu changé quand même, part complètement dans une autre direction et fait référence un peu au tissu qu'on voit là. Donc c'est un peu c'est un tout. C'est l'idée de présenter vraiment tout ensemble quoi. Et donc le fanzine est au centre de la pièce pour que les gens qui viennent dans l'exposition s'en emparent en fait, comme si c'était comme si la lecture allait peut-être éclairer. Je sais pas si ça éclaire vraiment mais bon, peut-être. En tout cas il y avait cette idée de faire à la fois des éditions à mettre au mur et puis des éditions à lire quoi. Cette petite carte on l'a fait quand j'étais dans en mini-résidence avec Spéléographie il y a 10 jours, qui représente les runes, donc une vieille écriture celtique, qu'on voit, qu'on aperçoit dans le livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, et le professeur Lidenbrock, donc le héros, qui va trouver le passage, Il va mettre des jours et des jours à déchiffrer ces runes qu'il trouve dans un parchemin, qui lui-même est dans un vieux livre qu'il achète au puce. Et ces runes-là, quand il va réussir à les décoder, ça va lui dire une phrase, qui est cette phrase que j'ai marquée en gros derrière le flyer, qui dit « Descends dans le cratère du Jökull de Schneffel, que l'ombre du Skartatis vient caresser avant les calendes de juillet. » Voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la Terre, ce que j'ai fait. » Et c'est signé Arne Saknussemm, qui est un savant du 16e dans le livre, hein, donc c'est fictif. J'avais envie de faire apparaître ces runes, en fait, comme encore une écriture mystérieuse, indéchiffrable, mais en même temps, on a la solution, puisque cette carte qu'on a éditée avec Mathieu de l'Endroit Édition, donc le Zine aussi, on l'a coédité ensemble, cette carte, on l'a éditée pendant la résidence. Et derrière, il n'y a pas d'autre mention que le nom du savant et puis parchemin du 16e siècle. Mmh. Donc voilà, c'est encore une pièce au puzzle, un peu de l'ensemble. Et puis c'est encore une édition, donc c'est une édition de 300 ou 400 exemplaires, je sais plus, qui est dans l'expo distribuée. Et puis sinon, il y en a une dans chaque zine. Je suis extrêmement attiré par tout ce qui est lieux mystérieux, grottes à visiter, sauvages ou non, grottes préhistoriques, etc. Donc c'est forcément le... L'exposition s'appelle Vers les terres creuses, et c'est aussi un endroit d'imaginaire qui me semble plus simple que d'aller dans l'espace, puisque l'espace, par exemple, qui est un autre endroit de pur imaginaire, il semble inatteignable, en fait. Enfin voilà, on peut même pas imaginer construire des fusées pour nous, etc. Alors que descendre dans le centre de la Terre, en fait, aller visiter des grottes, ça se fait, quoi. Tous les ans, on arrive à visiter quelques grottes ou même à descendre dans les catacombes à Paris. Je ne sais pas, c'est tout de suite un imaginaire qui est fantastique et qui est possible, qui est atteignable, en fait. Donc, ce n'était pas un livre de chevet. Je pense que c'était surtout un film que j'ai vu enfant avec des décors en carton-pâte que j'aimais bien. Après, je ramène pas du tout cette expo à l'enfance, bien que ça parle d'imaginaire, parce que je pense que l'imaginaire peut exister... à tous les âges, mais après je l'ai relu plus vieux, et puis là j'ai relu des petits bouts en préparant l'expo, mais il y a pas de ouais, c'est pas un livre de chevet, mais c'est tous les récits qui vont comme ça dans des directions souterraines sont intéressantes, enfin m'intéressent, sont pas tous intéressants, mais bon voilà, c'est des choses qui me touchent forcément.
Ouais, c'est mes originaux.
T'es un bourrin.
Non, c'est parfait. C'est un peu dommage d'exposer des photocopies.
Alex Baladi.
Mais alors, pour décrire Ravage, c'est assez spécial, parce que je pensais exposer des planches du premier et du deuxième livre, mais elles ont entièrement disparu. Elles ont été perdues, en fait. C'était dans une administration après une exposition, et je n'arrive plus à les retrouver. Ce qui est assez particulier par rapport au thème de la bande dessinée, où en plus on adapte une pièce de théâtre qui joue sur le fait qu'elle ne montre pas d'images. Alors nous, on montre quand même des images, mais de manière un peu décalée, et puis parfois on n'en montre pas. C'est assez compliqué à faire, d'ailleurs. Et puis finalement, toutes les planches disparaissent. Quoi. Bon, complot. Ça, c'est des storyboards. Le storyboard de Saturnine, donc c'est le livre que j'ai fini pendant la résidence, et qui va sortir au mois d'août chez Atrabil. Et puis donc j'avais fait un storyboard complet dans ce petit carnet en 2020 pour faire tout le livre. Et là j'ai commencé le storyboard de Tante Robinson. Tante Robinson, c'est la suite de Saturnine, qui elle-même est la suite de Robinson Suisse. Et ça se passe toujours sur la même île. Mais Saturnine se passe 100 ans après Robinson Suisse et Tante Robinson à peu près 150 ans après. Donc c'est dans un futur proche, Tante Robinson, toujours sur la même ligne. Et là, ça va être une adaptation de 4 livres de Jules Verne. Donc je vais prendre certains éléments de tous ces livres, quoi. Je vais remettre ça à ma sauce et voilà. Parce que je voulais pas. J'ai lu 4 Robinsonades de Jules Verne et je me suis dit qu'il y avait des éléments dans tous les livres qui étaient bien. Donc j'allais plutôt faire. Plutôt que d'en choisir un, j'allais vraiment faire ma propre histoire en prenant des éléments dans les 4 livres. Et ça, c'est Kit. Ça, c'est un livre qui existe seulement en 4 exemplaires, qui a été sérigraphié et fabriqué par Carlo Caggiano. C'est aussi elle qui a scénarisé en fait les différentes histoires. Et puis moi, j'ai fait les dessins. Et c'était pour une résidence à Bruzon, c'est un petit village dans le Valais. Et on a fait une expo de 4 jours dans une vieille chapelle en pierre, où il y avait un rez-de-chaussée et puis une petite salle en haut. Un petit rez-de-chaussée, une petite salle en haut. Et dans le rez-de-chaussée, il y avait les 4 portraits des 4 personnages des 4 histoires qu'on avait fait en tissu, des portraits géants comme ça, juste leur tête, avec différents tissus. Et donc en haut, il y avait un exemplaire du livre que les gens pouvaient consulter. Et voilà. Donc là, on peut pas le... Il est sous verre, on ne peut pas le toucher parce que c'est un objet assez rare. Mais il y a les originaux de la première histoire. Et donc il y a 4 personnages. Ces 4 personnages qui représentent chacun des qualités de la vieillesse. Parce que c'est des personnages vieux, qui ont un peu des super pouvoirs, qui sont un peu surnaturels. Et la première histoire, le personnage représente la solitude. La deuxième histoire, la créativité. La troisième histoire, la maladie. Et la quatrième, la sagesse. Alors il y a des gens qui sont assez étonnés qu'on fasse un lien entre la vieillesse et la créativité. Et pourquoi pas, mais... Et même, je dirais, que moi, ça me semble relativement évident. Bon. J'essaie de recréer, en fait, un petit peu comme justement ces systèmes de cases, dans le mur, qui est aussi comme une page. Hein. Donc, il y a les pages de bande dessinée qui, elles-mêmes, deviennent un peu comme des cases dans le mur, qui est la nouvelle page, dans le cadre d'une exposition. Et parfois, j'utilise souvent du scotch pour mes expositions, parce que je trouve que les cadres, c'est un peu, il y a une espèce de distance avec le verre. Enfin, je trouve que le scotch, il y a un côté un peu plus organique, un peu plus sensuel, comme ça. Un peu plus direct, un peu plus brut aussi, et esthétiquement, c'est plus joli. Mais parfois, je fais aussi des grappes de dessin. J'utilise du scotch de peintre. Alors là, je n'ai pas fait parce que, comme c'est dans une serre, il fallait que ce soit un scotch qui tienne assez bien. Et c'était un peu compliqué de faire des grappes de dessin, surtout avec ce papier. Généralement, quand je fais des grappes de dessin, c'est avec un papier beaucoup plus fin. Mes planches, elles sont en Bristol, un peu dures. Donc on peut aussi faire ça. Je l'ai quand même fait, mais ça marche mieux avec du papier fin. Et je fais des grappes de dessin, hein, c'est-à-dire que je fais des dessins qui sont un peu les uns sur les autres, comme ça, avec du scotch. Et puis qui tombe jusqu'au sol et tout. Enfin, j'aime bien m'amuser et puis essayer de penser à ce qu'on peut faire avec la bande dessinée dans un espace. C'est-à-dire repenser en fait. Pas simplement mettre des planches comme ça, mais vraiment essayer de réfléchir à la manière dont on peut exposer la bande dessinée pour que ce soit un truc en soi. Quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait des cubes. Parce que j'ai ce système de cases, justement, un peu en zigzag. Et il y a des gens qui m'ont dit « Ah, ça leur faisait penser à un chamboule-tout », c'est-à-dire comme des boîtes les unes sur les autres. Et je me suis dit « Tiens, mais en fait, si c'est des boîtes sur les unes sur les autres, c'est-à-dire qu'on voit qu'une face. » Et dans une histoire, il y a toujours, même dans la vie, enfin, il y a toujours plusieurs possibilités. Donc je me suis dit « Mais en fait, par exemple, il y a un western où il y a un personnage qui se prend une balle dans le bras. » Et si la balle avait été un peu plus, à quelques centimètres à côté, elle l'aurait pris dans le cœur. Donc, à un moment donné, on voit les deux faces, les deux possibilités, et on voit qu'en fait, les cases, si elles s'inclinent un petit peu, c'est des cubes. C'est donc, on découvre qu'elles ont 6 faces et qu'il y a d'autres possibilités. Enfin, finalement, je suis un peu parti sur... j'ai un peu déliré, j'ai fait un peu des personnages, voilà, un peu, en 4 cubes, les pieds, les... les têtes, comme ça on peut les mélanger, s'amuser un peu. On peut faire des strips.
C'est illuminé, donc j'ai mis des gélatines là-haut.
Ah ouais.
Faudrait que je les recoupe pour améliorer l'éclairage, mais ouais, il y a vert et rouge, enfin vert et violet.
Ah mais ça doit être cool.
Et j'ai une photo de la nuit. Bon, ça c'était chez moi, j'avais fait un éclairage avec les gélatines.
Mathias Picard.
Là ça donne ça, mais je suis pas très satisfait du blanc qui est au milieu parce que les deux filtres ils sont superposés, ils annulent un petit peu la couleur. Pardon. Du coup, il faudrait que je le biseote tout à l'heure, je vais mettre un coup de ciseau, histoire d'avoir vraiment le vert et le rose qui se mélangent. Ça, c'est la nuit, donc on ne voit plus l'image, mais on voit surtout l'extérieur. Voilà.
Tu es obsédé par les grottes ?
Écoute,
parce que c'est une grotte dans une grotte.
Je suis obsédé par le plâtre en ce moment plutôt, et donc je joue avec. Et là, je joue avec deux textures, à la fois la matière brute très lisse, quoi. Parce que le plâtre se lisse tout seul avec de l'eau. Et ensuite, j'ai mélangé le plâtre avec du bicarbonate et j'ai aspergé de vinaigre.
Ah, c'est ça qui fait.
Du coup, ça joue avec deux matières. Et j'adore parce que sans l'autre matière, si tu mets que du lisse, tu as vraiment un truc un peu dégueu. Et là, on a plus un rapport organique. Après, je me suis rendu compte que c'est Agathe qui me dit, qui a la minuscule galerie, je lui montre les premières images et elle me dit que ça tombait trop bien parce qu'avec spéléographie, la grotte, tout ça. Ouais. Et donc, en effet. Après, c'est plus un jeu sur le noir et blanc, l'intérieur, l'extérieur, le dedans, le dehors. Et après, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des petits mots ici qui sont aussi extraits du livre que j'ai rajouté sur la fin. Et
c'est quoi ce livre ?
C'est un polar des éditions du Masque. Celui-là, il date des années 50 ou 60, donc il est un peu patiné. Et donc je les trouve, c'est le titre en fait qui va me parler.
Ouais.
Cette collection elle a l'avantage d'avoir un beau papier jaune, donc très simple, monochrome et pas de visuel. Il y a le visuel de l'éditeur au milieu mais je l'ai enlevé. Et après j'en ai fait d'autres, des fois des livres avec des couvertures un peu plus complexes ou dessinées.
Ouais.
Ça marche pas avec tous les livres, mais c'est surtout le titre et le rapport texte-image après qui vient m'inspirer. Ou... Là, je suis content parce qu'il y a une semaine ou deux, il y a quelqu'un qui déménageait de chez lui et il y avait plein de livres qui étaient là. Et il m'a dit « Serre-toi » et j'en ai retrouvé une dizaine. Enfin, il y en avait peut-être une cinquantaine de ces éditions et j'en ai sélectionné. Je vois si le titre te parle, hop, tu le prends.
Ouais.
C'est une référence, mais comme ça, on est une pour tout le monde. Je veux dire, je ne suis pas un lecteur de Jules Verne, mais cet univers d'exploration, de dessin aussi. Jules Verne, c'est pas tant des romans que des livres illustrés. Et c'est ces illustrations-là qui sont aussi inspirantes, qui déploient un univers visuel. Et voilà, ouais, donc là, il y a aussi l'idée de sortir du livre, sortir du dessin, faire quelque chose avec la matière. Et là, de les faire dialoguer ensemble. À la base, Laurence m'avait vu un de mes livres comme ça, que j'avais fait pour une amie, parce que jusqu'à présent j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait moins de 10 des petits dioramas et à chaque fois je les ai faits pour les offrir à des amis, je les ai jamais fait par série ou tout ça. Et du coup elle en a vu un chez une copine, Nine Antico, et elle m'a dit « Ah, tu voudrais pas exposer quelque chose dans cet esprit ?» Et du coup c'est elle qui m'a poussé à en refaire un. Et donc, je me suis posé la question de la présentation de cet objet. Et comme il y avait une minuscule galerie de 30 cm par 40, le livre, en tout cas, n'avait pas ce format-là. J'avais pas envie de le mettre sur une sorte d'étagère classique. Je me suis posé la question de voilà, ce qu'il y avait autour. Et voilà, j'ai l'obsession du plâtre en ce moment et je vais me mettre à en faire. A priori, demain, j'ai acheté un gros sac de 5 kg aujourd'hui. Donc j'aimerais bien en refaire là pendant la résidence. C'est un matériau simple, brut, calcaire, qu'on retrouve aussi dans la roche. Et puis voilà, je joue avec son côté, comment dire, vous mettez du citron sur du calcaire, ça fait des bulles, ça se nettoie, ça fait Ça, je jouais à ça quand j'étais gamin aussi. À prendre des cailloux tout sales et puis à mettre du citron dessus. Puis c'est aussi l'idée de créer des formes sans les avoir prédéfinies. C'est-à-dire que là, on laisse aller le truc lui-même. La stalactite, c'est vraiment ça. Ou la stalagmite, c'est... Tu fais couler et tu vois la forme qui apparaît. Et là, il y a plein de petites formes de visage peut-être. Parfois, rien n'est dessiné par ma main. Tu vois, justement, c'est oublié le cerveau là-dedans. À part dans le petit livre, il y a... Voilà, j'ai pensé l'image, mais sinon, ça s'est fait au fur et à mesure. Et j'aime bien cette démarche-là aussi, de pas trop réfléchir à faire une image qui est conforme à l'idée qu'on se fait, mais de laisser la matière agir toute seule.
Spéléophonie, un carnet sonore proposé par Henri Landré.
Enregistré à Rennes, à L'Endroit Édition, à l'Orangerie du Tabor et à la Minuscule Galerie, le mercredi 1er juin 2022.
Le style, non, mais en fait, c'est ça. Ah ouais, mais c'est moi, je suis partout comme ça.